Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Malheur Prépa. Aujourd'hui, nous allons parler de la question des points bonus attribués aux boursiers avec Dimitri, rédacteur en chef de Malheur Prépa. Dimitri,
bonsoir. Salut Nicolas, et très heureux d'être avec toi ce soir, effectivement.
Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, de décrire ce que c'est que les points bonus attribués?
Yes, carrément. Alors en fait, bon, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est qu'en 2022, donc c'est-à-dire dans quelques mois, pour la première fois dans l'histoire des classes prépa, des écoles, et en l'occurrence les meilleures écoles de commerce françaises, ont décidé de noter différemment au concours, à l'écrit et même à l'oral pour certaines, les étudiants boursiers et les autres. L'objectif affiché, bien sûr, hein, tu peux t'en douter, et je pense que nos auditeurs s'en doutent, c'est de permettre à plus d'étudiants boursiers d'accéder aux business schools les plus prestigieuses. Et le gros problème en fait, de cette réforme, c'est que personne ne semble être en faveur de cette mesure, et pas même justement les principaux intéressés, et on va y revenir justement.
Comment l'idée des points bonus au concours a émergé?
Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, à l'origine, il faut remonter à juin 2019, et à cette date, la ministre de l'Enseignement supérieur, donc Mme Frédérique Vidal, a commandé un rapport à HEC, à l'ESSEC, à l'ESCP, aussi à l'X et au 4ENS, un rapport donc sur la diversité sociale au sein des grandes écoles de commerce françaises. Donc ce rapport, il a été remis 3 mois plus tard, et donc l'objectif, c'était de formuler des propositions concrètes pour améliorer la situation face au constat qui était déjà plus ou moins connu, à savoir que ces écoles manquent de diversité et que la reproduction des élites est toujours une réalité dans ces écoles, a fortiori dans les meilleures écoles. La ministre a également demandé à Martin Hirsch, qui est donc le directeur de la BHP, le président de l'Institut de l'Engagement, de piloter aussi en parallèle un rapport, un comité de réflexion donc, qui s'intitule « Diversité sociale et territoriale dans l'enseignement supérieur ». Et là aussi, l'objectif était de formuler des propositions concrètes. Et comme tu peux l'imaginer, dans les deux cas, le constat est le même, c'est que l'inégalité, elle se fait bien en amont. Elle se situe en amont des classes préparatoires. Elle se situe d'une part dans l'asymétrie d'information entre les étudiants qui peuvent avoir peur de ces classes prépa parce que papa et maman n'ont pas forcément fait de classe prépa. Et aussi, évidemment, ce que décrit Bourdieu depuis de nombreuses années, cet écart, ce hiatus de bain culturel qui fait que les étudiants, a priori, issus des milieux les plus aisés, sont mieux armés que les autres pour réussir. Donc voilà, ce constat, évidemment, il était déjà connu. Mais pour autant, le rapport propose donc évidemment des idées pour agir en amont et corriger donc ce biais. Mais aussi, c'est là où porte un peu la curiosité qui nécessite un petit peu un éclaircissement, c'est que le rapport suggérait, les différents rapports du coup suggéraient de mettre en place également un recrutement plus diversifié, ce qui permettait a priori donc du coup d'avoir une ouverture sociale peut-être supérieure, et puis d'autre part justement de mettre en place ces fameux points bonus au concours. Alors la bonification envisagée à l'époque, elle était directe, elle était même collective dans le cadre du rapport de Martin Hirsch, c'est-à-dire que l'objectif c'était à l'échelle d'une classe, à partir du moment où il y avait un nombre de boursiers suffisant, de proposer des points bonus à l'ensemble des boursiers. Et le dispositif, là où il différait de ce qui s'est passé actuellement, c'est que les points bonus étaient attribués de manière extrêmement directe. Ça pour le coup c'est assez différent de ce qui a été finalement décidé.
Comment ont réagi les étudiants à ce système?
Alors justement, c'est ce que je disais, hein, que ce soit les profs ou même de manière générale l'écosystème, hein, les professeurs de classe préparatoire, les directeurs d'établissement, de manière générale, il y a eu une énorme levée de boucliers pour beaucoup de raisons, on pourrait y revenir, mais globalement, presque tout le monde a très mal accueilli cette mesure-là, en particulier les étudiants boursiers eux-mêmes, selon une étude du BNEM, qui est le Bureau national des étudiants en école de management, qui ont fait donc une étude auprès des étudiants boursiers qui sont passés par une classe prépa et qui sont aujourd'hui diplômés ou étudiants au sein de ces grandes écoles, et bien plus de 70% se prononçaient en défaveur de cette mesure. Donc même ceux à qui a priori cette mesure profite, et bien sont contre cette mesure.
Concrètement, quelles sont les mesures maintenant qui ont été retenues après cette première proposition et après cette levée de bouclier? Qu'est-ce qui est retenu?
Alors finalement, ce qui se passe, il faut savoir déjà qu'il y a relativement peu d'écoles qui ont décidé de mettre en place ce système. A fortiori, en fait, le système s'adressait surtout aux trois parisiennes qui étaient invitées à faire ce rapport et peut-être un peu plus généralement aux meilleures écoles de management, puisque ce qu'on observe, c'est que plus on s'éloigne des toutes meilleures écoles de management et plus en fait le taux de boursier semble, on va dire, acceptable. Donc aujourd'hui, ce qui est entériné, c'est que HEC va mettre en place un point bonus à l'écrit puis à l'oral pour l'ensemble des étudiants en carré, et que cette bonification, qui est quand même assez conséquente, hein, on le comprend, un point à l'écrit puis un point à l'oral sur 20, elle sera toujours disponible entre guillemets pour les étudiants boursiers. Donc finalement, les seuls qui vont pâtir de ce dispositif, ce sont les étudiants non boursiers qui cubent, parce que HEC estime que c'est les étudiants qui sont a priori les mieux armés et qu'une aide de cube justement bénéficie plus à des étudiants boursiers. Pour ce qui est de l'ESSEC maintenant, l'ESSEC a donc décidé d'appeler jusqu'à 40 boursiers supplémentaires à l'admissibilité, donc ceux qui se situent juste en dessous de la barre d'admissibilité officielle. Et donc ces étudiants, eh bien, ils seront mélangés ensuite avec les autres, ils devront rattraper leur très léger retard, sachant que l'ESSEC est beaucoup plus sélectif à l'écrit qu'à l'oral. Le SCP s'est refusé à mettre en place de telles mesures. Et pour ce qui est de l'EDEC, l'EDEC va mettre en place une mesure qui ressemble beaucoup à celle de l'ESSEC, mais seulement en 2023. Et il faut aussi rappeler que tous ces dispositifs sont a priori plutôt encore expérimentaux, et donc les différentes écoles qu'ils ont mises en place se réservent le droit de modifier ce dispositif si elles jugent que finalement il n'est pas si pertinent que ça.
Donc il y a trois écoles qui proposent une solution, proposent un système de points bonus attribués aux boursiers, et malgré toutes ces logiques de contestation, qu'est-ce qui les a poussés à maintenir ce dispositif ?
En réalité, lorsqu'on regarde les chiffres de près, et c'est là où le bât blesse justement, on constate qu'il y a un plafond de verre encore monumental, comme je le disais, entre les étudiants boursiers qui n'accèdent pas justement à ces meilleures écoles, et puis les autres. Et ça, c'est véritablement un problème. Alors, il y a quelques chiffres pour ça. Un étudiant boursier a trois fois moins de chances d'être déclaré admissible qu'un étudiant non boursier aux Parisiennes. Ça, c'est une première chose. Une autre chose qui montre un peu l'inégalité aussi territoriale qui existe, c'est que plus de 50%, on va dire 50% pile des étudiants qui constituent les promos d'HEC Paris successivement sont issus de 6 ou 7 prépas, dont l'immense majorité se situe en réalité à Paris, ou du moins en Ile-de-France, parce qu'il y a aussi beaucoup de prépas versaillaises de très très bon niveau. Donc ça, c'est un constat qui est accablant et qui montre qu'effectivement, il y a une véritable discrimination en ce sens. Maintenant, le problème de cette mesure, pourquoi elle est tant décriée quand même, parce qu'il faut le rappeler, il y a énormément de raisons. La première, c'est que ça remet en cause totalement l'idée de méritocratie, qui est quand même extrêmement chère au concours, enfin qui est le socle même de la classe préparatoire. Ensuite, on peut imaginer que ces étudiants boursiers qui peuvent déjà se sentir stigmatisés en école vont l'être d'autant plus, puisque voilà, entre guillemets, on leur dire en fait, t'es là juste parce que t'étais moins riche que moi et donc t'as eu des points bonus. Enfin, bon, voilà, je caricature un petit peu, mais c'est quand même le risque fondamental qui pose sur cette mesure et qui fait que beaucoup d'étudiants boursiers qui ont réussi les concours sans cette mesure s'y opposent fermement. Et puis aussi, il y a un risque qui est considérable, c'est le risque de fraude, évidemment. Parce qu'à partir du moment où les points bonus, le fait d'être boursier ou pas, devient un véritable enjeu dans la réussite du concours, on peut s'attendre à ce que des étudiants pas très scrupuleux se débrouillent pour être boursiers en traficotant un petit peu le système d'État, parce qu'il faut rappeler que boursier, c'est l'État qui détermine effectivement ça. Et donc, c'est pas forcément évident de contourner ce dispositif, on va dire, mais il est toujours possible de le faire. Et donc, c'est un risque qui est absolument non négligeable, et on verra effectivement dans les années à venir si le nombre de faux boursiers prolifère ou pas, si effectivement cette mesure est pérennisée dans les différentes écoles. En tout cas, c'est un risque qui semble tout à fait considérable.
Dans ce cas-là, je pense que ce qu'il faut espérer peut-être, c'est attendre de voir ce que ça va donner, mais qu'est-ce qu'on espère de la mesure, qu'est-ce qu'on en attend ?
Le risque, entre guillemets, je suis un peu peut-être péjoratif là, mais le risque qu'on pourrait effectivement esquisser, c'est de voir en fait simplement une espèce de jeu de vase communicant où en fait les boursiers du top 5 ou du top 10 se trouvent ponctionnés par les boursiers du top 3, par les écoles du top 3. Ça, c'est effectivement un risque. Après, l'avantage quand même, c'est que ça permettra un certain rééquilibrage, puisque comme je l'ai dit, il y a nettement moins de boursiers dans les écoles du top 3 que dans les écoles du top 10. Bon, donc ça, ce serait un moindre mal. Mais disons que c'est quand même pas l'idéal. L'idéal, évidemment, ce serait qu'il y ait davantage aussi de boursiers qui intègrent cette formation, parce que la prépa est beaucoup taxée de reproduire les élites. Elle fait peur aussi à ces étudiants qui sont issus de milieux modestes. Et l'objectif quand même affiché par ces écoles, qui a priori espèrent avoir un taux de boursiers qui avoisine les 23, 24, 25% dans les années à venir. À titre de comparaison, c'est à peu près 28% de boursiers sur l'ensemble du territoire, pour les classes préparatoires économiques et commerciales, j'entends. Ce serait l'objectif, en tout cas, qu'on pourrait souhaiter. Maintenant, évidemment, beaucoup d'étudiants et beaucoup de professeurs estiment que cette mesure est quand même assez démagogique. Donc évidemment, les écoles défendent aussi cette position, dans la mesure où elles se trouvent assez désœuvrées, finalement, pour œuvrer véritablement pour les cahiers des chances. Alors oui, certes, elles mettent en place des tutorats, elles mettent en place des frais de scolarité qui sont différenciés selon le revenu des familles. Beaucoup de mesures, évidemment, qui vont dans le bon sens. Mais quand on les écoute, elles nous disent toutes, finalement, qu'elles sont assez démunies et qu'elles n'ont pas d'autres moyens vraiment concrets d'agir assez directement pour augmenter ce taux de boursier, tout simplement.
Bien, merci beaucoup, Dimitri.
Merci à toi.
Pour cet échange. Et on va suivre avec attention ce nouveau système. Et pour vous tous, on se retrouve sur un prochain podcast Majeur Prépa.
Merci à toi, Nicolas.